Bonsoir, un seul grand titre à la une des informés de France Info ce soir, la vacance de Monsieur Hulot, la démission surprise sans prévenir. Hein. Sur France Inter ce matin, du ministre de la Transition écologique provoque une crise politique majeure au sommet du pouvoir. Nous reviendrons évidemment sur les circonstances de son départ, sur les répercussions politiques. L'opinion publique, vous le verrez, soutient Nicolas Hulot, évidemment, ce soir, selon notre enquête réalisée par Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Nous évoquerons également la puissance des lobbies. Ont-ils une réelle influence? Nous porterons un regard sur la rentrée très compliquée d'un Emmanuel Macron obligé de commenter malgré lui l'événement en pleine visite d'État au Danemark. Et nous irons faire un petit tour du côté du MEDEF qui met en garde le gouvernement en pleine préparation du budget 2019. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous Yael Gauz.
Bonsoir Jean-François.
Je commence par vous ce soir parce que vous êtes chef du service politique de France Inter. Nous reviendrons avec vous sur ce qui s'est passé ce matin sur votre antenne. Avec nous également, bonsoir, Marion Mourgue.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro, notre partenaire des informés. Avec nous également, bonsoir et bienvenue à Serge Auru. Vous êtes, bonsoir, vous êtes conseiller auprès de la maire de Paris sur les questions d'environnement, ancien, entre autres, un directeur général du WWF. Et nous accueillons ce soir également François Siegel, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous, cofondateur et directeur de la revue trimestrielle Oui Demain, qui publie une interview exclusive de Nicolas Hulot, quel hasard, hein, François Siegel, intitulée « Le monde dont je rêve en 2040 », nous l'évoquerons tout à l'heure avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. 8h26 sur France Inter ce matin. Nicolas Hulot, qui a participé hier, vous le savez, à la réunion sur la chasse à l'Elysée, répond aux questions de Nicolas Demorand et Elias Salamé. L'encore ministre de la Transition écologique, énergétique et solidaire s'explique visiblement ému et soudain. Écoutez bien.
Je prends la décision de quitter le gouvernement. Et c'est donc une décision qui était un véritable dilemme entre soit m'accommoder des petits pas, en sachant que si je m'en vais, je crains que ça soit pire, soit rester, mais donner ce sentiment que par ma seule présence, nous nous mettons en France ou en Europe dans une situation d'être à la hauteur sur le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité.
Yael Gauz, vous êtes donc le chef du service politique de France Inter. Comment est-ce qu'on réagit, ne serait-ce que dans le studio, face à une telle déclaration avec une sorte d'émotion non feinte, hein, de Nicolas Hulot?
Alors moi, Jean-François, je suis en régie avec mon petit carnet. Je prends des notes régulièrement quand des invités de marque comme ça viennent dans la matinale d'Inter. Et absolument rien de prémédité. On invite Nicolas Hulot pour réagir à la réunion de la veille sur le permis chasse, dont on sait que le prix a été divisé par deux désormais. Donc on pense qu'on va parler de ça. Il vient, mais sans nous dire avant qu'il vient pour dire au revoir. Et là, il se sert à 8h26 de France Inter comme boîte aux lettres envoyée directement à Édouard Philippe, qui écoutait Inter à ce moment-là. Emmanuel Macron, je ne sais pas, mais Édouard Philippe écoute France Inter. En tout cas, il envoie donc sa démission par les ondes, sans prévenir personne, ni son épouse, et sans nous prévenir nous non plus, qui organisions évidemment
l'invitation. Le président, le premier ministre, ça a été dit et redit.
Voilà. Vous savez quoi, surprise totale.
Ce sont des moments tellement rares dans la vie des médias. J'ai écouté la réaction des deux intervieweurs, de France Inter, Léa Salamé et Nicolas Demorand.
Vous êtes sérieux, là?
Oui, je suis sérieux.
Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant de rentrer dans ce studio.
On le découvre.
Bien au contraire.
Serge Auru, vous connaissez bien Nicolas Hulot, vous avez un long passé, ce n'est pas fini dans la vie des mouvements écologistes. Hein. Il vous surprend, Nicolas Hulot, par sa réaction, là?
Non. Non, c'est un... Non, je ne suis pas... je me sens proche de Nicolas Hulot, je me sens proche de son combat. Mais non, je ne suis pas surpris, parce que Nicolas est un chevalier solitaire. C'est un homme extrêmement responsable, digne, et qu'il a tiré le signal d'alarme. Donc il fait une sortie plus impactante que son entrée au gouvernement. Parce que soudain, Il y a une prise de conscience globale. Regardez, hier c'était la phrase du pape, aujourd'hui c'est la démission de Nicolas Hulot, et qui prend une proportion incroyable. Jusqu'à hier, tout le monde lui crachait dessus, et là aujourd'hui, tout le monde salue son combat et son courage de prendre cette décision. Il est resté 15 mois au gouvernement, ce n'est pas simple. Être tout seul comme écologiste dans un gouvernement, mais ce n'est pas simplement que le gouvernement Macron, prenez le gouvernement Hollande ou le gouvernement Sarkozy ou le gouvernement Chirac. Être seul dans un gouvernement lorsqu'on est écologiste, c'est difficile. Donc c'est le syndrome du solitaire.
Alors nous poursuivons le tour de table. Marion Mourgue, manque de courtoisie, a dit ce matin Benjamin Griveaux chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Vous partagez ce point de vue ? C'est un manque de courtoisie ?
C'est vrai que les usages font que d'habitude on prévient quand même celui qui vous a nommé. Mais nous au Figaro, et le Figaro le raconte demain dans un article de Marcelo Westfred, il y avait quand même, on sentait quelque chose qui montait parce que normalement il devait y avoir une interview de Nicolas Hulot dans le Figaro qui était calée et après cette réunion des chasseurs, eh bien l'interview a été annulée. Donc on a senti déjà qu'à cette réunion des chasseurs,
c'était un petit signe avant-coureur.
Voilà, oui. Il s'était passé quelque chose et Nicolas Hulot d'ailleurs le dit sur France Inter ce matin, le fait qu'il y ait eu un lobbyiste, eh bien ça l'a, il a pas supporté, il a trouvé que ça allait trop loin et qu'il y avait trop de cadeaux qui étaient faits aux chasseurs.
François Siegel, vous qui l'avez interviewé récemment, ça date de quand cette entretien?
Cette interview, nous sommes un trimestriel, donc les délais de bouclage sont assez longs. L'entretien remonte à un mois.
C'est récent.
Remonte à un mois, mais bon, on a toujours évidemment 27.
Vous imaginez partir comme ça?
Non, moi je l'imaginais pas pour une raison. Mais après, on peut toujours prêcher un peu par optimisme, parce que je pense que c'est quand même relativement une assez mauvaise nouvelle. C'est peut-être une très mauvaise nouvelle pour Trump, mais je pense que pour la France, pour le respect des accords de Paris, voilà, pour toute la politique qui pourrait en suivre, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais j'avais été totalement scotché par une vidéo à laquelle assistait qui présentait le Premier ministre Nicolas Hulot à propos du livre de Jarrett qui s'appelait Effondrement.
Oui.
Et on a vu le Premier ministre dire « Je suis absolument convaincu, effectivement, que ce terme me hante ». Et je me suis dit « Mais là, enfin, il va se passer quelque chose. Enfin, il va se passer quelque chose ». Eh ben non, voilà, le livre de Jarrett Davis est resté lettre morte dans la bouche du Premier ministre, effectivement. Tout ça n'était que des mots. Et c'est pour ça que j'ai quand même été surpris. Parce que, depuis le temps, nous qui observons effectivement ce nouveau monde qui a beaucoup de mal à se mettre en place, on se dit mais quand est-ce que la bascule va se faire ? Bah manifestement, c'est pas pour ce coup-là.
Allez, 20h10, on marque une pause. Le retour de l'info sur France Info avec vous. Bonsoir Boris Allier.
Bonsoir à tous. Après leur grève record à la SNCF, les syndicats se retrouvent jeudi prochain. Un premier contact de rentrée selon Sudrail. Les quatre organisations entendent peser sur les négociations de la future convention de la branche ferroviaire. Les associations de défense de l'environnement regrettent un gâchis après la démission de Nicolas Hulot. L'écologie n'est qu'un vernis pour le gouvernement, selon le directeur général de Greenpeace. Une démission que regrette également Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot. Il a eu à faire face à la différence entre le militantisme et la mise en œuvre, selon elle. L'ouragan Maria à Porto Rico a fait près de 3000 morts. C'est le résultat d'une nouvelle étude sur la catastrophe qui avait touché l'île américaine l'année dernière. Le bilan officiel de 64 morts à l'époque avait déclenché la controverse. Elles s'engagent à réduire leurs déchets incinérés. 23 villes et régions signent une déclaration commune pour diminuer de 50% le volume des déchets mis en décharge et incinérés. Et ce, d'ici 2030, parmi ces villes, Paris, New York et Tokyo qui promettent d'augmenter le compostage et le recyclage. Et puis ça y est, c'est officiel, Kevin Strootman s'engage avec l'Olympique de Marseille pour 5 ans. Le footballeur néerlandais en provenance de l'AS Rome est la deuxième recrue officielle de l'OM.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il n'avait prévenu personne, Nicolas Hulot. Comment donc allait réagir le chef de l'État, le président de la République en visite d'État, s'il vous plaît, au Danemark, qui venait tout juste de démarrer sa tournée à Copenhague? Écoutez les mots du président Macron.
C'est une décision personnelle qu'il a prise ce matin. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est, entre autres, un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je pense qu'en 15 mois... ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. Plus qu'aucun autre.
Qu'est-ce que vous diriez de ce que pense à ce moment-là Yael Gauz Emmanuel Macron ? Il est sidéré.
Un beau numéro d'acteur politique. Emmanuel Macron cherche à déminer en douceur.
Il paraît
une déflagration politique pour lui. Parce que Nicolas Hulot, c'est pas un scoop ce que je vais vous dire, c'était la prise de guerre la plus belle, la prise de guerre majeure lorsque le quinquennat commence en mai 2017 pour lui.
Ministre d'État, numéro 3
juste en dessous Gérard Collomb. Vous avez Édouard Philippe, Gérard Collomb, et puis ensuite c'est Nicolas Hulot tout de suite dans un ministère qui est censé être clé, dont le budget a même augmenté deux fois dans le premier budget, dans celui qui va être voté à l'automne. Donc c'était un ministère clé. Donc là, il est obligé de faire évidemment profil bas et de dire voilà, il reprend sa liberté de, c'est un homme libre. Oui, mais c'est surtout d'abord un ministre qui lui échappe et qui ne lui fait pas plaisir.
Marion Mourgue, ce ministre là, il est presque dans sa pratique, vous l'évoquiez tout à l'heure, plus nouveau monde que ceux qui sont arrivés au pouvoir et derrière, puisqu'il, au fond, il transgresse une règle républicaine de la Ve République. Est-ce qu'il pose problème aujourd'hui, franchement?
Il le dit régulièrement, il n'a pas les codes de la politique et il veut pas les avoir. Mais il était un des rares ministres identifiés par le grand public, connu, on savait qu'il était, il y en a peu dans le gouvernement. Et là, on voit la réaction d'Emmanuel Macron, il est acculé à réagir depuis l'étranger, sur une situation politique nationale, ce qu'il déteste faire.
Déteste, oui.
Et Emmanuel Macron va avoir un deuxième problème, c'est qu'il va devoir remanier son gouvernement. Et là aussi, il déteste être acculé par la pression médiatique à le faire. Mais il va être obligé. Et donc, Nicolas Hulot va lui poser une série de problèmes politiques.
Alors, puisque vous parlez de ça, Marion Mourgue, j'en profite, Serge Auru, vous connaissez bien la planète écologiste nationale. Qui vous verriez-vous, on joue un petit jeu rapide, puisqu'on va parler du sondage maintenant, hein, qui verriez-vous pour succéder à Nicolas Hulot au gouvernement?
Il y a plusieurs personnes. Il y a Pascal Canfin, il y a Ségolène Royal, vous avez Alain Juppé... Non, ça ne va pas manquer, les remplaçants. Le problème de Nicolas Hulot, peut-être qu'il ne maîtrise pas les codes de la politique, mais il maîtrise les codes des médias. Donc, y compris sa démonstration ce matin, certes, il l'a fait d'une manière sincère et digne, mais il maîtrise cela. C'était émouvant, il y a une dramaturgie incroyable. Ce qu'il veut dire aussi, c'est que, je parlais du solitaire tout à l'heure, les codes de la politique, que sont les politiques? Ils ne sont absolument pas formés, quels qu'ils soient, au péril écologique, à l'érosion de la biodiversité, à comment créer une économie du moindre impact sur l'environnement, comment produire sans détruire. Et donc, ces hommes et ces femmes, et du président Macron, mais je pourrais le dire la même chose du président Hollande ou du président Sarkozy, et leurs subordonnés ne sont absolument pas formés.
Et c'est leur horizon politique, leur cycle politique qui explique ça aussi.
Pardonnez-moi, mais durant la COP21, le concours à l'ENA, le sujet porté sur les gaz de schiste. Vous imaginez en 2015, donc toutes les grandes écoles, tous ceux qui forment notre élite, il n'y a aucune formation digne de ce nom. Et ça, c'est un vrai problème. Et là, vous pouvez mettre l'écologiste le plus brillant, le plus volontaire. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont vous dire « Oui, c'est très intéressant, le dérèglement climatique. Oui, oui, il faut préserver la planète. Mais comment faire ?» Non, on ne peut pas faire.
Vous dites que le niveau n'y est pas, au niveau du pouvoir, vous dites qu'en fait, au fond, le compte n'y est pas sur le combat pour la planète. C'est ça que vous dites?
Je dis qu'il n'y a pas de formation.
Ça vaut pour Emmanuel Macron comme pour ses prédécesseurs.
Pour affronter le péril climatique et l'érosion massive de la biodiversité.
Alors, François Siegel, on va parler du sondage vite, parce que je voudrais qu'on y arrive rapidement. Mais juste un mot. Dans votre interview dans Oui Demain, vous situez donc, je crois qu'il a 66 ans.
Mais c'est ça, en 2030, c'est ça.
Oui, Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, bien sûr.
Et vous questionnez donc Nicolas Hulot là-dessus.
On a plus de 80,
Il n'a pas l'air d'être convaincu que ce président-là, au fond, va réussir la transition écologique, énergétique de ce pays.
Il le dit, il a les cartes en main, voilà, et à lui de jouer. Et puis globalement, comme il le dit dans l'interview, il a réussi, il n'y aura plus besoin d'un ministère de l'écologie. Et globalement, je ne servirai plus à rien, même si j'aurai 85 ans en 2040. Mais globalement, effectivement, il donne une alternative à Macron. Il n'est pas convaincu. Effectivement, il n'est pas convaincu.
Il a
les clés en main. Et c'est vrai que ce que disait Serge Auru est très important, et je pense que c'est intéressant, c'est un problème de logiciel. Il y a un moment, nous, on a mis un peu de temps à Oui Demain à être convaincu. On ne s'est pas retrouvé. Voilà, c'est à force de manier de l'information. Mais là, aujourd'hui, quand même, autour de nous, après l'été qu'on vient de vivre, après, toujours après jour, après après ce qu'on appelle les collapsologues, ouvrir tous ces mouvements qui disent que globalement on est en train de s'emballer et que à force de s'emballer, voilà, on va fabriquer des climatiseurs pour lutter contre le réchauffement, et puis après quand l'eau va monter, on va fabriquer des digues, etc. On voit bien quoi que les exemples ne manquent pas.
Ils sont sous notre nez.
Alors, est-ce que la politique, pour répondre à la question, est-ce que c'est un premier, si c'est un nouveau joker, évidemment, ça ne servira à rien. Parce que, moi, je veux dire, c'est vrai que Emmanuel Macron, il a très peu parlé d'écologie, c'était un candidat écologique très converti sur le tard. Il a mis du temps. Ça fait pas partie de sa formation. Voilà, globalement, le costume est jeune. Je suis pas sûr que les méthodes le soient autant.
Alors, Marion Mourgue, avant le retour de Boris Allier pour le rappel de l'info, juste le sondage. On va commencer l'égrener, hein. Nos partenaires Odoxa et Dentsu Consulting donc ont réalisé cette enquête pour France Info et Le Figaro auprès d'un millier d'internautes aujourd'hui, après cette démission. Elle booste son image, c'est au fond l'élément essentiel, l'enseignement essentiel du sondage. Réaction de l'opinion donc, même si les Français la regrettent, hein, cette démission pour 55%, eh bien elle est perçue comme une très bonne chose pour lui, 84%, mais une bien mauvaise nouvelle pour le gouvernement à 65%. Premier commentaire sur cette enquête.
Oui, il récupère sur le capital politique qu'il avait en entrant au gouvernement.
C'est un succès, ce départ.
C'est un succès, oui, pour lui, parce que oui, il y avait un certain nombre de dossiers sur lesquels il était attendu et où son bilan était contesté. Donc là, on a l'impression que les gens ont oublié et retiennent plus la sortie un peu théâtrale ou dramatique.
Vous dites ça, vous, un peu théâtral. Ça vous chagrine un peu, vous?
Non,
c'est vrai, un peu traditionnel, non?
Je sais pas, mais c'est vrai que, en effet, comme le disait Serge Auroux, il a aussi, Nicolas Hulot, les codes médiatiques. Donc, il sait très bien ce qu'il sait quand il déclare, ce que ça va produire, et ça n'empêche, enfin, ça ne prive pas sa sincérité, mais il peut y avoir un peu de mise en scène aussi.
Alors, oui, mais Jean-Pierre Chevènement était théâtral aussi, mais quand il démissionnait, il me remettait sa lettre.
Yael Gauz, un mot, vous inquiétez pas, on va continuer là-dessus, juste après les infos. Yael Gauz, un mot, au fond, c'est un succès, ce départ de Nicolas Hulot, auprès de l'opinion, apparemment.
Oui, c'est un succès.
Ça pourrait être perçu comme un mauvais joueur, oui.
Pour faire quoi derrière? On lui a posé la question aussi, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est fini la vie politique? Il a dit deux fois, c'est terminé. Donc c'est la tentation, pas de Venise, mais de Saint-Lunaire, hein, où il passe beaucoup de week-ends quand même dans sa maison.
En Bretagne.
Mais pourquoi derrière? C'est un sacrifice pour la cause, mais après. Mais
c'est peut-être
il est jeune encore, peut-être pour
c'est
pour
peut-être une déflagration de la désinvolture courante que nous voyons tous les jours parmi nos décideurs.
Oui.
Regardez quand les maires des villes font des choses, comment ils sont attaqués. Allez, ils ont bien raison de faire des choses.
20h20 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Boris Allier.
Il y a une urgence environnementale et climatique. Nicolas Hulot n'est pas le seul à le dire. Le nouveau président du MEDEF le reconnaît également. Geoffroy Roux de Bézieux a ouvert l'université d'été du MEDEF tout à l'heure avec un mot pour l'écologie. Le patron des patrons estime que l'initiative est du côté de la sphère privée. Le voyage d'Emmanuel Macron au Danemark perturbé par la démission surprise de son ministre de la Transition écologique, le chef de l'État n'a pas pu éviter le sujet. Il dit respecter sa liberté et compte sur son engagement sous une autre forme. Attention aux orages. L'alerte concerne 11 départements du Sud-Ouest. Vigilance orange de la Vienne aux Pyrénées-Atlantiques en passant par la Dordogne. Google dément les attaques de Donald Trump. Le président américain accuse le moteur de recherche de partialité en mettant en avant les sites qui lui sont défavorables. Google conteste toute partialité politique. Et puis le tennis avec l'US Open à New York. A noté la qualification pour le deuxième tour de Richard Gasquet. La défaite d'Alizé Cornet. Autre Français à suivre ce soir, Julien Beneteau, Gaël Monfils et Caroline Garcia.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Autre indication de notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro. Alors je lis, hein, 58% des Français estiment qu'il a été un bon ministre, François Siegel, alors que sa cote de popularité s'effondrait. Est-ce que l'opinion est versatile?
Ça, que l'opinion soit versatile, ça c'est une certitude. Effectivement, il y a eu sûrement une lassitude devant effectivement le manque de résultats, mais on se rend pas compte effectivement de l'ampleur de la tâche. Moi, je pense que ce qui ne trahit pas, c'est sa sincérité, quoi. Nicolas Hulot, il le portait sur sur son visage, quoi. Il avait l'air torturé, quoi. Je veux dire, quand on regarde la photo qu'on a faite, sans flash, sans phare, sans maquillage, quoi. On sent que manifestement ce gars-là était pas heureux dans la fonction et qu'il portait quelque chose d'extrêmement lourd. Alors après, ça a peut-être été une impulsion ce matin, une mauvaise nuit, quelque chose, très médiatiquement préparé. Bon, il a peut-être pas respecté effectivement des codes gouvernementaux très très établis, mais je crois qu'on peut pas lui reprocher la sincérité. Après, maintenant, la vraie question, c'est par qui le remplacer et surtout pourquoi faire. Pourquoi faire.
Alors, juste un instant, Yael, et Marion, vous allez réagir parce que cette démission est-elle inéluctable, utile? Écoutez ce qu'en ont dit. On va écouter deux petites réactions rapides. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et l'incontournable Dany Cohn-Bendit. Voilà.
Il faut que cette démission soit utile pour qu'une autre politique écologique qui en finisse avec le nucléaire, qui organise la transition écologique, se mette en œuvre. Et cette démission confirme que ça n'est pas le cas pour ce gouvernement. C'est quelque chose qui marque une crise dans la Macronie, une confirmation que ce gouvernement fait des mauvais choix, sur le plan écologique notamment.
Si demain la gauche est au pouvoir, si demain il y a un ministre de l'environnement de gauche, comme il y avait, il aurait les mêmes problèmes. C'est-à-dire que la transformation écologique nécessite une transformation des modes de vie.
Voilà, Dany Cohn-Bendit et Alexis Corbière, Marion Mourgue et puis ensuite Yael Gauz. Hein, la classe politique semble au fond reprocher à ce gouvernement de ne pas se soucier de la planète.
Oui, enfin on peut pas dire que l'ensemble de la classe politique prenne ce dossier à bras-le-corps, puisqu'il y a un certain nombre de leaders qui n'en parlent pas. Donc là c'est aussi peut-être un faux procès. Non, ce qu'on a vu, c'est la sortie de tous les ministres aujourd'hui pour essayer de déminer. Et puis ensuite, l'opposition qui s'est engouffrée dans la brèche. Mais là, c'est le jeu politique qui a repris le dessus.
Oui, le simple jeu politique qui a Yael Gauz sur ce qu'on a entendu, ces réactions de personnalités politiques.
Dany Cohn-Bendit, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit que la société française, en fait, elle n'est pas encore prête à entendre le vrai discours écologique qu'a porté ce matin Nicolas Hulot sur France Inter. Il y a des paradoxes. Aujourd'hui, on est tous pétris de paradoxes et de contradictions. C'est-à-dire que vous avez des écologistes aujourd'hui qui viennent contester un projet en Guyane, la Montagne d'Or, en prenant des avions low-cost depuis Paris. Et c'est ça le paradoxe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aller défendre une cause quelque part, mais vous prenez un avion low-cost avec un kérosène pas cher. Mais ça, c'est totalement contradictoire. Et le monde d'aujourd'hui est celui-là.
Mais d'ailleurs, Nicolas Hulot le disait ce matin en disant « Où sont mes troupes Que fait la société ?» Donc en appelant aussi, pas seulement les politiques, mais les Français à réagir.
Alors justement, bravo, Serge Auru, un homme seul, Nicolas Hulot.
Ah, vous savez, l'écologie, ça me fait penser, en France, ça me fait penser à la guerre d'Espagne. Les communistes fusillaient les anarchistes fusillaient les socialistes fusillaient les communistes, qui même recommençaient à fusiller les anarchistes.
Ça s'appelle l'économie circulaire.
Pendant ce temps-là, Franco avançait. Oui. Donc, il y a des forces écologistes qui sont totalement disséminées, éparses, en chapelle, qui s'affrontent. Regardez ce que d'aucuns disaient sur Nicolas Hulot ces 15 derniers mois. Donc, il était assassiné en permanence tous les jours, parce que dès qu'il est arrivé au gouvernement, Nicolas Hulot, c'est Yvan Noé Vert. On avait vraiment envie qu'il y ait un développement.
Mais est-ce qu'il n'a pas manqué de soutien?
Et il pensait vraiment pouvoir persuader le gouvernement et Emmanuel Macron d'aller dans cette direction-là. La COP21, tout le monde a signé la COP21. Il n'y a personne en France qui a envie de dire « j'ai envie de détruire la planète ».
Mais prenons un exemple. Il a manqué de soutien, mais il est responsable. Il est coupable de ça. Il le reconnaît lui-même. Il n'a pas organisé ses troupes. Il n'a rien fait. Il a été dégoûté. Vous vous souvenez des primaires écologistes de 2011, échec pour lui. Derrière, il a été dégoûté. Il est venu au gouvernement, mais a-t-il organisé un groupe de parlementaires derrière lui? Non.
Il avait juste Mathieu Orphelin.
Permettez-moi de vous rappeler une petite chose. Avant l'élection de Nicolas Sarkozy, l'ensemble des ONG se sont regroupés d'une manière totalement informelle, et ça n'a pas été simple. WWF, Greenpeace, FNH, France Nature Environnement et bien d'autres. Avec Écologie sans frontières. Et donc, on a provoqué une coalition qui a permis le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, ça a permis de faire bouger les lignes. C'est pas la panacée, mais on a fait bouger les lignes. Bien sûr, à un moment donné, Sarkozy a dit, après les élections européennes, l'environnement, ça commence à bien faire. Et donc là, tout s'est effondré. Mais si nous continuions cette coalition, Nicolas Hulot, ce matin, a parlé de diversité. dans le monde de l'écologie, dans le monde politique également. Mais si cette diversité-là, on arrivait à en faire une coalition pour avoir, pour passer du jetable au durable, il y a beaucoup d'écologistes qui sont fumeurs, mais vous savez très bien que les mégots, on les retrouve dans la rue, et que c'est un vrai problème pour toutes les collectivités.
D'un mot, parce qu'il va y avoir la pause, mais rassurez-vous, on y revient juste après le retour de l'info et de la météo. Marion Mourgue, elle est morte, cette écologie politique, rapidement?
Oui, elle est en mauvaise posture, faute de paroles fortes pour la porter.
Mais elle va vivre.
Bon. Mais en effet, c'est une question.
Elle va vivre.
Allez, ce que je vous propose, François Siegel, je vous promets, vous aurez la parole juste après. On se retrouve donc après la météo, après le rappel de l'info, et nous allons évoquer justement les dossiers, ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché pendant cette présence de plus d'un an de Nicolas Hulot à ce ministère. À tout à l'heure.
Coucou chérie, alors ça avance ton CV ?
Ah, j'ai terminé, mais comme d'habitude, dès que j'ai besoin d'imprimer, il n'y a jamais d'encre.
Avec HP Instant Ink, on n'aurait pas ce problème.
Ah bon, et pourquoi ?
Parce qu'avec HP Instant Ink, tu te fais livrer tes cartouches à domicile avant que tu sois à court d'encre. Et tu peux imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois.
Gratuitement ? Et pourquoi on l'a pas cet abonnement, nous ?
Ça fait 15 fois que je t'en parle, mais t'as pas imprimé. Bon allez, tu nous inscris ?
Ah, tout de suite chérie.
Avec HP Instant Ink et les imprimantes HP, imprimez gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
France Info Météo, avec Calipage, premier réseau en Europe de distributeurs experts en fourniture de bureaux. Votre succès commence par Calipage.
La météo le rappelle, avec vous Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Attention aux orages parfois violents ce soir de la région Midi-Pyrénées à la région Aquitaine, gagnant les deux Charentes. Les pluies seront localement fortes avec des chutes de grêle et surtout on attend des rafales de vent comprises entre 100 et 120 km par heure. La nuit prochaine, ces orages vont remonter vers les Pays de Loire, la Bretagne et la Normandie, puis la région Centre et l'Île-de-France. Demain, la journée sera chaotique dans une bonne moitié est du pays avec des pluies orageuses. Le temps restera maussade du sud-ouest à la région Centre et de l'Île-de-France aux frontières belges avec des pluies parfois marquées, surtout en matinée. En revanche, vous apprécierez le retour d'assez belles éclaircies des Charentes à la Bretagne et de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais. Et pour finir, le soleil va briller généreusement en Corse et autour de la Grande Bleue. Les températures vont baisser sensiblement sur la moitié ouest du pays, avec des maximales comprises entre 19 et 24 degrés. Seront toujours chaudes dans la moitié est et comprises entre 25 et 30 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Vous écoutez France Info, il est tout juste 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François, direction tout de suite New York pour la deuxième journée de l'US Open de tennis. On retrouve en direct Fabrice Abgral. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Pas de démission hein, chez les Français en tennis, ça se passe bien ?
Ben, ça se passe plutôt bien, en effet, avec la qualification de Richard Gasquet pour le deuxième tour. Ça s'est beaucoup moins bien placé, en revanche, pour Alizé Cornet, éliminée dès le premier tour, battue par la Suédoise Johanna Johnson. En ce moment, sur le court numéro 13, Julien Beneteau est opposé à Marco Cecchinato. Vous vous en souvenez de Marco Cecchinato ? C'était la révélation du dernier Roland-Garros, où il avait atteint les demi-finales. Et pour l'instant, avantage à l'Italien. 5-2, Julien Beneteau. Beneteau dispute peut-être aujourd'hui son dernier match, le dernier match de sa carrière, puisque Julien Beneteau a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue de cette US Open. Pour l'instant, ça se passe pas très bien donc pour Julien Beneteau qui est mené 5-2. Il va servir pour tenter de revenir à 5-3.
Merci Fabrice Abgral en direct de New York qui nous fait vivre, et ce sera le cas toute la soirée, ce tournoi du Grand Chelem donc de l'US Open à New York. 15 mois et puis s'en va, Nicolas Hulot a décidé de démissionner ce matin de son poste de ministre de la Transition écologique sans prévenir ni Premier ministre ni Président de la République. En visite officielle au Danemark, Emmanuel Macron a pris acte et salué son action au sein du gouvernement. Sa démission, elle, semble être saluée par l'opinion. Selon notre sondage Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info, 84% des personnes interrogées estiment que c'est une bonne décision pour lui. Toutes les oppositions politiques de droite comme de gauche ont commenté ce départ. Il a refusé de servir de caution Il a raison pour le député écologiste du Parlement européen Yannick Jadot. C'est un vote de censure contre Macron pour Jean-Luc Mélenchon. Une décision courageuse pour Benoît Hamon. Le Premier ministre a annoncé qu'il ferait dans les prochains jours des propositions au président pour remplacer Nicolas Hulot au gouvernement. Le Premier ministre était invité cet après-midi au lancement de l'université d'été du MEDEF et la démission de Nicolas Hulot s'y est invitée. Édouard Philippe et le patron de l'organisation patronale ont appelé les participants à se projeter dans l'avenir en matière environnementale. Il y a même une urgence climatique, a dit Geoffroy Roux de Bézieux. Le climat est chaud dans le ciel également. La France vit son deuxième été le plus chaud depuis 2003 selon les données de Météo France. Sur le sud-ouest aujourd'hui, attention aux orages. 11 départements sont en vigilance orange jusqu'à minuit. L'OM casse sa tirelire pour s'offrir les services du milieu de terrain de 28 ans, Kevin Strootman. C'est un joueur néerlandais. L'OM a déboursé entre 20 et 30 millions d'euros pour s'offrir les services de ce joueur qui évoluait à l'AS Rome. Il s'est engagé au club marseillais pour 5 ans. Le mercato dans le football prend fin à la fin de la semaine. Tout de suite, il est 20h33, la suite des Informés avec Jean-François Aquili.
20h, 21h, les Informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des Informés de France Info avec nos invités, Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro, avec Yaël Gauz, le chef du service politique de France Inter, avec vous François Siegel, vous êtes cofondateur et directeur de la revue trimestrielle Oui Demain, et avec Serge Auru, conseiller auprès de la maire de Paris sur les questions d'environnement, et je le précise, membre de la grande famille des écologistes. Alors, qu'est-ce qui aura fait chavirer ce matin Nicolas Hulot pour Morgane Pied derrière, l'une des responsables de l'association France Nature Environnement? Le glyphosate aura été le sujet majeur de la discorde.
Il y a mis toute sa conviction, il s'est engagé sincèrement. Et donc si lui n'y a pas réussi, on ne sait pas si quelqu'un pourra faire mieux.
Yael Gauz, c'est le glyphosate qui aurait été le sujet majeur?
Moi, je dirais pas ça, non, je dirais que c'est le nucléaire. En fait, on va voir qu'il y a beaucoup de sujets, mais je dirais prioritairement le nucléaire.
On va les égrener.
La PPE, la loi de programmation pluriannuelle énergétique, c'est un peu...
Mais c'est le déclic, il y a un déclic à un moment donné dans la décision de l'homme politique.
Le déclic, il le dit ce matin, c'est d'avoir vu un lobbyiste de la chasse, Thierry Coste, oui, dans le bureau de l'Élysée. Mais dans l'été, ce qui se joue beaucoup, c'est cette loi de programmation énergétique qui est essentielle, qui nous emmène, je crois, jusqu'en 2028, qui dit dès maintenant comment seront gérés les réacteurs, à quel niveau, combien on en ferme, et là,
c'est là qu'il
Nicolas
constate,
Hulot constate son impuissance. Il constate qu'il ne sait pas, il ne peut pas dire. Il avait dit à cet hiver qu'il en fallait 17, enfermer 17 pour tenir l'engagement de réduire de 75 à 50% la part de nucléaire dans la production électrique française d'ici à 2025. La date de 2025, elle a sauté. Et ensuite, il n'a pas eu de nouvelles dates à proposer. Il ne sait pas combien il peut enfermer. Et je considère que c'est sur le nucléaire que se fait la rupture.
Marion Mourgue, si on devait faire deux colonnes concernant l'action de les plus et les moins, qu'est-ce que vous diriez, peut-être de mémoire, mais j'ai moi-même dressé une petite liste non exhaustive. Il y a Notre-Dame-des-Landes qui est encore...
Oui, je pense que le nucléaire, en plus, on se souvient de la tête de Nicolas Hulot, parce qu'il était à côté d'Édouard Philippe en pleine conférence de presse, et on avait l'impression qu'il découvrait l'annonce au moment où le Premier ministre était en train de la faire. Donc on sentait déjà que là, c'était compliqué. Notre-Dame-des-Landes serait plutôt dans la colonne des plus.
À l'actif, oui.
Oui. Et puis, en effet, le glyphosate, la chasse avec le poids des lobbies. Mais en effet, ça, on peut multiplier les exemples.
Serge Auru, vous évoquiez le Grenelle tout à l'heure de l'environnement. D'ailleurs, le nucléaire, il n'en était pas question à l'époque. Et là, est-ce que vous pensez que le report de la baisse du nucléaire dans la production énergétique du pays, au fond, c'est ce qui aura, comme le dit Yael Gauz, pesé dans cette, comme une mèche lente dans cette décision de Nicolas Hulot?
Le nucléaire, l'agriculture, l'alimentation, le glyphosate, la chasse. Non, c'est tout un ensemble.
L'huile de palme, importée par Total aussi.
Regardez, il a dit ce matin sa relation avec le Premier ministre, avec le Président de la République. Mais après, il se retourne et puis il y a la herse de Bercy. Et c'est valable pour tous les ministres de l'Environnement. Il ne faut pas un ministre de l'Environnement, il faut que tous les ministres soient des écologistes. Mais quand on dit ça, ça peut prêter à sourire, mais l'écologie, c'est comme les droits humains. Qui va contester aujourd'hui que les droits humains, ça doit exister partout sur la planète?
Et ça, il l'a obtenu dans la Constitution qui sera réécrite lorsque la révision arrivera au Parlement. L'article 1er de notre Constitution, c'est à mettre à son actif, sera réécrit pour dire qu'il faut préserver l'environnement.
François Siegel, si l'on regarde le personnel politique, et même si on remonte un petit peu le temps, nombreux sont les ministres qui auraient pu claquer la porte pour telle ou telle raison, parce qu'au fond, à leurs yeux, le compte n'y est pas, il faut qu'ils s'assoient de temps en temps sur leurs convictions.
C'est certain, mais c'est assez rare. Voilà, c'est assez rare. C'est pour ça qu'on peut effectivement saluer effectivement le courage qu'a pu avoir Nicolas Hulot de ne se pas se Je crois qu'effectivement ce qui est important effectivement dans son raisonnement et dans son action, c'est de considérer qu'effectivement que le compte n'y était pas. Quoi qu'il arrive, même s'il est arrivé à impulser une loi sur la transition énergétique, effectivement on a parlé de suppression de décarboner effectivement les automobiles en 2030. Alors on ne sait pas où, comment. Bon, effectivement il y a des avancées, mais c'est vrai qu'on ne sent pas que le pays se soit vraiment mis en marche effectivement sur les énergies renouvelables, le solaire, la réduction du nucléaire, mais aussi effectivement d'autres énergies terrestres. On ne sent pas que le pays soit vraiment mis en marche, et je pense que devant autant de difficultés à faire bouger les choses, et encore une fois la question, moi je peux comprendre, c'est très difficile pour Emmanuel Macron de dire, chers amis, la croissance ne sera que de 1,7%, 1,5%, mais c'est une excellente nouvelle parce que c'est comme ça qu'on va construire un nouveau pays. Ben non, c'est pas possible. On a été nourri effectivement, j'irais, à la croissance en permanence, à la croissance qui apporte des emplois, voilà. Ça fait 20 ans qu'elle stagne, la croissance en France. Ça fait 20 ans qu'il n'y en a plus.
Pas le bon modèle.
Non, c'est pas le bon modèle. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas
ce
nous.
Mais ce logiciel persiste. Les préoccupations des Français aujourd'hui.
Comme on le disait tout à l'heure, il n'y en a pas d'autres de logiciel.
La préoccupation, c'est l'emploi, le pouvoir d'achat. Et Emmanuel Macron et Edouard Philippe collent à ce cycle politique-là, qui est classique, mais qui est celui de la rentrée. C'est-à-dire, est-ce que j'aurai du pouvoir d'achat? Combien je vais payer d'impôts? Est-ce que j'aurai un emploi?
Alors la grande question, c'est pourquoi, comment est-ce qu'on va créer de nouveaux emplois, comment est-ce qu'on va créer effectivement de nouveaux secteurs d'activité, etc.
On va vous réinviter pour une prochaine émission, c'est le vrai sujet de fond, vous avez raison de le souligner, François Siegel. Mais Marion Mourque, cette affaire Hulot commence par une déclaration du chef de l'État à l'attention de M. Trump, c'était le fameux « Make our planet great again ». Ça démarrait bien cette histoire pourtant?
Oui, ça démarrait bien, et Nicolas Hulot était celui qui était censé avoir un peu inspiré Emmanuel Macron pendant la campagne. Souvent, le président avait dit « Bon, je ne suis pas pro-environnement, mais j'essaye de devenir, et Nicolas Hulot m'a inspiré. » Donc, ça partait plutôt bien. Mais on a l'impression qu'il était tout seul. Il y a eu aussi les frictions avec d'autres ministres, et notamment le ministre de l'Agriculture. Donc ça, il le mentionne, Nicolas Hulot, plusieurs fois dans différents entretiens. On sent que ça a pesé. Et on arrive à cette situation qui est, sur le plan politique, très coûteux pour Emmanuel Macron, parce que c'est aussi la fin du « en même temps ». C'est-à-dire que Nicolas Hulot, il a porté une caution de gauche, une caution sur l'environnement, et là…
Ah, il y a un vrai trou, si je puis dire, dans le gouvernement. Là,
il y a une réduction de sa base…
D'accord, il y a le go avec
ça. C'est le grand paradoxe, c'est l'erreur stratégique d'Emmanuel Macron d'hier.
Trou d'air, là.
Donc, il y a eu les retraités qui ont pris un coup sur la tête, quand même, avec le pouvoir d'achat en baisse, les pensions qui ne seront plus revalorisées. Le lendemain, il fait quoi? Enfin, hier, je veux dire, il fait quoi avec les chasseurs? Signal envoyé au monde rural, sauf qu'en faisant ce signal-là, il se coupe de la branche progressiste écologique de son gouvernement. Il y a tout à refaire.
Allez, 20h40 sur France Info. Merci, vous me faites mes transitions, Yael Gauz. Le retour de l'info avec vous, Boris Allier.
Il aurait été le 13e ministre de l'écologie en 20 ans. Nicolas Hulot n'est resté à son poste que 15 mois. Démission annoncée sur France Inter ce matin sans que le chef de l'État ni le Premier ministre ne soient prévenus. Nicolas Hulot estime avoir été seul à la manœuvre. Il dénonce la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Saad Lamjared, mis en examen pour viol dans le Var. La star marocaine était en garde à vue à Saint-Tropez. Une femme l'accuse de l'avoir violée dans la nuit de samedi à dimanche dans un établissement de la ville. La vedette avait déjà été poursuivie en 2016 à Paris pour viol. Le roi Mohamed VI avait payé ses frais d'avocat. Les images sont impressionnantes. Des bateaux de pêche qui se percutent en pleine mer. C'était ce matin au large de la Normandie. Pêcheurs français et britanniques se sont affrontés. Les Normands ont tenté de faire fuir les Anglais d'un gisement de coquilles Saint-Jacques. Ils réclament que les Britanniques restent à l'écart pour préserver la ressource. Et puis le football avec le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Lorient se qualifie pour les 16e de finale après sa victoire 1-0 face à Ajaccio. Plusieurs matchs à suivre en ce moment. Nancy-Orléans, Le Havre-Brest notamment. Et puis dans 5 minutes, Lens affronte Metz.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Emmanuel Macron est-il cerné par les lobbies? Ça a été dit, ça et là. Alors il y a cet homme dont la présence hier à la réunion sur la chasse aura ulcéré Nicolas Hulot. Il en parlait ce matin sur France Inter. C'est Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Il était présent à la réunion hier et il s'exprimait dans le journal de 13h sur France 2.
J'ai été sidéré d'entendre qu'il démissionnait, sidéré qu'il accuse quand même un peu le monde de la chasse d'être à l'origine de ça. C'est d'autant plus incompréhensible qu'on a passé 2 heures de réunion, 2 heures, lorsqu'on est parti, Nicolas Hulot m'a serré la main, point.
Marion Mourgue, c'était un personnage que les journalistes de terrain connaissent bien, on nous connaît tous.
Mais il est là depuis longtemps.
Et, oui, moi ça fait une vingtaine d'années que je le connais.
Il était sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy comme conseiller et François Hollande aussi.
On le croise dans les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est un des plus puissants lobbyistes français, comme le journal Le Monde a pu l'écrire.
Il fait partie des lobbyistes importants et le monde de la chasse est...
Un million de chasseurs, hein.
Bah, c'est peut-être faible en nombre de voix, mais c'est très regardé par les politiques. Et donc, avant les élections européennes, avant d'autres échéances, on sent que l'exécutif a voulu leur faire une petite attention. Ouais.
Macron et les lobbies, Yael Gauz, est-ce que c'est pas un petit peu un fantasme? Au fond, c'est un système qui existe aux États-Unis, ça dérange personne.
Je crois pas. C'est un système qui est lié au nouveau monde Macron. C'est-à-dire, vous avez des profils politiques nouveaux, jeunes, issus du privé, la société civile, qui arrivent, qui ont un parcours différent de leurs aînés, qui n'ont pas fait leur classe aux jeunesses socialistes ou à d'autres jeunesses, qui ont travaillé directement, qui sont surdiplômés et qui ont eu des parcours dans des entreprises. Rien qu'Édouard Philippe était lobbyiste pour Areva, donc pour le nucléaire, avant de repartir en politique.
Oui, Benjamin Griveaux, vous avez aussi Unibail, tiens.
Vous avez aussi une conseillère, j'ai perdu son... Audrey Bourouleau, je crois, c'est à l'Élysée, qui est une ancienne dirigeante de Vin et Compagnie, qui est un lobby de la viticulture, et qui conseille Emmanuel Macron, et qui aujourd'hui se retrouve parfois en porte-à-faux avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui aimerait bien faire des progrès sur la lutte contre l'addiction aux alcools et aux vins. Et qu'est-ce qu'on entend au sein de l'agriculture en février dernier quand Emmanuel Macron parle du vin? Ben moi, j'en bois le midi et le soir.
Alors qu'Agnès Buzyn... Il ne faut pas emmerder les Français.
Ouais, exactement.
Citation Georges Pompidou.
Et on a un autre... Ce que dénonçait Nicolas Hulot pour la chasse, ça existe dans d'autres domaines au gouvernement, notamment la santé. Vous allez voir, mi-septembre, un plan qui doit être présenté par Agnès Buzyn contre les addictions à l'alcool, mais aujourd'hui il y a une bataille souterraine pour que le pictogramme qui prévient les femmes enceintes sur les bouteilles de vin ne soit pas imprimé, ne soit pas publié. Et cette bataille souterraine qui continue, c'est le même exemple.
Alors François Siegel, le président Macron est émargé à la banque Rothschild avant l'avènement de François Hollande au pouvoir. Au fond, on lui reproche peut-être d'avoir cette espèce d'ADN, de proximité avec le monde des affaires et donc laisser la part belle au lobby. Vous y croyez, vous?
On ne veut pas faire de procès aux gens, effectivement, sur son passé. C'est pas parce
on a le droit
Macron...
de travailler dans le privé, peut-être, non?
Je pense qu'on commence... Oui, mais je pense qu'on peut quand même s'interroger sur la personnalité de qui est vraiment Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il pense vraiment, qui sont ses choix, quelles sont ses valeurs fondamentales. Il y a plein de domaines sur lesquels, moi, je peux tout à fait être d'accord avec lui. Puis, globalement, vu le choix, voilà. Mais quand même, et puis vu l'environnement, mais on peut aujourd'hui se poser des questions. On peut se poser des questions sur c'est les fondements de la laïcité, on peut sur l'écologie. Il y a un moment peut-être qu'on peut pas tout capter, quoi. Il y a un moment il faut faire des choix et on peut pas tout capter. Et la question, encore une fois, c'est quand est-ce que la bascule, parce que je suis d'accord, la bascule elle va s'opérer et elle viendra des Français. Je crois qu'elle va venir des Français, elle va venir de la société civile. Il y a pas longtemps, si vous donnez juste 2 minutes, les Échos, c'est quand même pas le journal le plus écologique, c'est pas le porte-parole, je dirais, de Greenpeace ou des Verts, la plume d'un de ces historiolistes, Vittori, titrait « Seul le capitalisme peut venir, seule l'écologie peut venir au secours du capitalisme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le capitalisme tel qu'on le vit, tel que le monde le pratique aujourd'hui, évidemment ne génère que des inégalités. Il y a eu des avancées dans le monde, hein. Je veux dire, malheureusement, en deux minutes, on peut pas faire le bilan
bien
de tout.
Votre idée, mais, François.
Mais globalement, oui. je reste sur l'idée, c'est de dire quel est le plus beau chantier aujourd'hui mondial d'un capitaliste qui ne sait plus comment occuper son argent qu'à racheter son capital. Exemple Apple, par exemple. Quel est le plus beau chantier que le sauvetage de la planète? C'est les Échos qui le disent. Un jour, on va considérer que c'est d'une priorité et que de cette priorité viendront effectivement un projet de société, une occasion de vie, et globalement pour le peut-être pas le bonheur de tous, mais effectivement pour se sentir bien quelque part.
Alors c'est un très joli cri hein, de François Siegel ce soir. Serge Auru, c'est lobbyiste, c'est représentant d'intérêts, c'est l'appellation exacte. Est-ce qu'ils sont une émanation du système capitaliste que décrit François Siegel et dont il aimerait changer peut-être les fondements?
Il faut les abattre, je pense.
Abattre qui?
Les lobbies.
Ah, vous dites ça, vous?
Ah oui, parce qu'ils sont dangereux. Parce
vous ouvrez la chasse.
Parce qu'ils détruisent. Non, mais parce qu'ils détruisent notre environnement immédiat et lointain.
Le permis coûte moins cher.
Ils contribuent à cela. Ceci dit, je suis admiratif.
Expliquez-nous.
Je suis admiratif de leur efficacité. Et j'aimerais que le monde de l'écologie puisse avoir cette efficacité-là en matière de lobby.
Vous dites qu'il n'y a pas de lobbyistes qui défendent la cause de l'environnement et de la planète?
Mais c'est la cupidité qui règne dans le monde aujourd'hui. Regardez les inégalités. L'écologie, c'est quoi? C'est un ensemble. C'est réduire les inégalités sociales. C'est permettre tout simplement à respirer un air potable. On n'est quand même pas venu sur la planète pour déforester nos forêts, pour plastifier nos océans. Pour enlever tous les poissons dans toutes nos mers, pour rendre toxiques nos sols et nos eaux. On n'est pas venu sur cette planète pour cela. Donc comment on invente un autre modèle de vie qui permet de transmettre à nos enfants une planète vivante?
Ce que vous dites, c'est qu'il manque une école du lobbying adverse.
Je pense qu'il y a une. Est-ce que vous avez vu un directeur de cabinet du Premier ministre, du président de la République, du ministre des Finances qui ne soit pas énarque? Je n'ai rien contre les énarques. Je veux simplement qu'ils soient formés pour justement vivre une planète vivante, une planète avec.
Pour vous, c'est un problème de formation des élites.
Mais c'est un problème de formation des élites. Mmh. Aujourd'hui, lorsqu'on explique que les origines des guerres viennent très souvent des sécheresses, des dérèglements climatiques, on nourrit plus au nez aujourd'hui. Vous savez très bien que la Syrie, au départ, il y a eu une sécheresse qui a précipité
René
des populations
Dumont
dans les villes.
René Dumont est loin dans nos mémoires. Hein. L'époque René Dumont est très éloignée dans nos mémoires. Il me paraissait comme un petit peu illuminé à l'époque, souvenez-vous, tout de même.
Oui, mais René Dumont était un pionnier. Mais,
un esprit éclairé.
Écoutez, il y aura un avant et un après l'émission Nicolas Hulot. Moi, je crois que ça va provoquer un déclic psychologique chez beaucoup de gens pour dire on se trompe dans cette direction. Je suis peut-être naïf, mais j'aime avoir cette candeur. Et puis, c'est les collectivités. Toutes les collectivités. Regardez les maires des villes, ce qu'ils font. Ils font des choses très intéressantes. Et lorsqu'ils essayent de bouger, ils sont souvent très attaqués. Je ne veux pas parler de mon cas personnel. Je soutiens
Anne Hidalgo.
Je travaille avec
Anne Hidalgo.
Et vous savez très bien comment elle a attaqué sur des choses que j'estime justes et légitimes. Mais nous avons à changer la formation des élites. Ça, c'est vraiment très, très important. Moi, je crois que c'est le nœud du problème. C'est quoi la formation? C'est de la recherche appliquée, c'est de la recherche fondamentale, c'est prendre des parts de marché. Vous voyez, on peut avoir le même langage des capitalistes, mais simplement pour faire en sorte de sauvegarder notre environnement immédiat et lointain.
Nous marquons une dernière pause, 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Gérard Collomb dit regretter le départ de Nicolas Hulot. Le ministre de l'Intérieur salue son expérience et sa sensibilité. Il estime qu'il continuera à servir les idées qu'il défend. La démission surprise du ministre de l'Écologie, un gâchis pour les associations de défense de l'environnement. Pour le président des Amis de la Terre, le gouvernement est le problème et pas la solution. La France a vécu le deuxième été le plus chaud de son histoire. Selon Météo France, la température moyenne a été supérieure à la normale de près de 2 degrés. Le quart nord-est du pays a été particulièrement touché par cette chaleur. L'été 2018 reste toutefois loin derrière celui de 2003 et sa canicule meurtrière. Cette alerte aux orages, elle concerne 11 départements du sud-ouest. Vigilance orange de la Vienne aux Pyrénées-Atlantiques en passant par la Dordogne. Le tennis avec l'US Open à New York a noté la qualification pour le deuxième tour de Richard Gasquet, la défaite d'Alizé Cornet. Autres Français à suivre ce soir, Julien Beneteau, Gaël Monfils ou encore Caroline Garcia. Et puis, hommage à la reine de la Soul à Détroit, aux États-Unis. Les admirateurs d'Aretha Franklin défilent auprès de sa dépouille. Elle sera exposée pendant 4 jours dans un musée. Ses funérailles, elles, sont prévues vendredi.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et pendant ce temps, le gouvernement tente de boucler le budget 2019. Édouard Philippe s'est rendu, comme prévu, aux universités d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas et s'est exprimé à la tribune à propos de Nicolas Hulot.
En écoutant ma radio, j'ai appris, comme beaucoup d'entre nous, la démission et la décision, plus exactement, de Nicolas Hulot de quitter le gouvernement. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, je vais vous le dire très clairement, que j'en ai pris acte, bien entendu, mais que j'ai aimé travailler avec Nicolas Hulot. J'ai aimé travailler avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois qu'ensemble, nous avons réalisé des avancées, et je veux dire ici la totale détermination du gouvernement à poursuivre sur ce chemin, à travailler, à prendre en compte ce sujet qui est devant nous, de la transition écologique.
Voilà, Edouard Philippe qui donc écoute apparemment France Inter. Curieux ces applaudissements, Marion Mourgue, je vous ai vu un petit peu sourire.
Oui, parce que je me dis, c'est vraiment une rentrée très brouillonne pour l'exécutif. C'est-à-dire que déjà, on l'a dit, Emmanuel Macron était acculé à réagir. Et là aussi, normalement, quand le Premier ministre va devant le MEDEF, il ne doit pas réagir à une démission d'un de ses ministres d'État. Donc, on sent que ça pollue. Et depuis quelques jours, on ne comprend pas bien où va l'exécutif. Il y a eu une interview dimanche du Premier ministre. Et finalement, les discours et les actes sont en total désaccord. C'est-à-dire que depuis le début, le gouvernement voulait plutôt prôner une politique pro-entreprise. Et les annonces qu'il y a eu dimanche sont pas vraiment pour les entreprises. Et Yael le disait aussi, oui, pas pour les retraités ni les familles. Donc, il y a une certaine multiplication de désaccords qui brouillent le message.
Alors justement, vous faites bien de le rappeler, Marion Mourgue, Yael Gauz, le patron des patrons, hein, désormais Geoffroy Roux de Bézieux, a mis en garde le gouvernement, enfin l'exécutif, comme on dit chez nous, à ne pas franchir la ligne rouge, apparemment. Les annonces sont quelque peu contradictoires en cette rentrée.
Oui, ce que disait Marion, c'est Bruno Le Maire qui rectifie le lendemain d'Edouard Philippe dans le JDD pour dire que les cotisations patronales baisseront, mais plus tard que prévu, c'est-à-dire en octobre 2019 et non pas au 1er janvier. Donc c'est pour mettre les entreprises aussi à contribution dans l'effort budgétaire qui doit être fait maintenant. C'est une rentrée brouillonne, disait Marion, extrêmement compliquée, où on a un Emmanuel Macron qui pour la première fois est en défensive, totalement défensive, subit les événements et n'est pas capable pour l'instant de reprendre la main. C'était le cas en juillet sur l'affaire Benalla, qui n'est pas close. Il y aura une commission d'enquête au Sénat qui va reprendre. Ça, c'est un point noir aussi pour le gouvernement et pour l'Élysée. C'est le cas maintenant avec Nicolas Hulot. C'est le cas avec des chiffres de croissance subis, eux aussi, à la baisse. C'est le cas aussi sur le projet européen, où les vents sont contraires par rapport à ce qu'aimerait faire Emmanuel Macron. Voilà, l'an 2 d'Emmanuel Macron est loin d'être aussi serein que l'an 1.
Vous partagez ce point de vue, François Siegel, vous qui contestiez tout à l'heure, avec non, des mots très forts, l'approche qu'on a systémique de notre société.
Ben, la réalité, elle existe. Hein. Je veux dire, Emmanuel Macron, il est confronté à une réalité terrible. Globalement, les chiffres n'y sont pas. Il avait prévu un 9, 2, ça va être un 7. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déficit. Et puis en même temps, il y a le pétrole. On n'avait pas prévu que le pétrole flambe. Air France n'a pas prévu que le pétrole flambait. Donc low cost va coûter encore un petit peu plus cher. Enfin voilà, je veux dire, globalement, les chiffres n'y sont pas. Il y a évidemment un amoncellement international, effectivement, de mauvaises nouvelles qui fait qu'ils sont face à une réalité. Et comment, effectivement, de ce concept dégagé de priorités nouvelles, c'est effectivement extrêmement compliqué. Mais le problème, c'est qu'on n'y arrivera pas comme ça. C'est vraiment toute la question. Mais encore une fois, c'est vrai que quand on est, effectivement, au pied du mur, on réagit sans recul et effectivement dans la priorité, effectivement, des décisions qui semblent être celles.
Alors, oui, alors Serge Aurue, vous les voyez où, vous, les clés du nouveau monde aujourd'hui? Apparemment, cette rentrée, Yael Gauz l'a bien dit, Marion Mourgue également, est très compliquée, on va dire, pour ce gouvernement.
Compliqué pour nous tous. c'est compliqué pour le gouvernement, mais nous sommes un peuple aussi, et nous avons à travailler aussi les uns et les autres dans la diversité. Et donc, moi, je pense, je crois toujours à ce que dit Edgar Morin, il faut croire en l'improbable. Là, bien sûr qu'on peut critiquer vigoureusement ce gouvernement, mais je crois qu'il
faut... Du moins constater.
Non, moi, je crois qu'il faut agir nous-mêmes. Dans ce que nous faisons, dans notre travail, dans notre sphère familiale, il faut aussi savoir choisir nos décideurs. Nous voulons une formation de l'élite digne de ce nom. Nous voulons que de la maternelle aux universités, aux grandes écoles, on puisse former une population à produire un pays qui ne détruit pas l'avenir des générations futures. Ce n'est pas qu'un leitmotiv, c'est facile à faire et surtout c'est des parts de marché, parce que lorsque regardez par exemple l'éco-conception des emballages, les emballages en France, c'est une catastrophe. Le tri...
Le message commence à passer. Hein,
oui, d'accord, mais c'est un peu long. Lorsqu'on va uniformiser le tri en France, ça sera formidable. Je ne pense pas que ça soit difficile à faire. Mais l'éco-conception des emballages...
Je vous promets qu'on y consacrera une émission, parce que c'est un sujet fondamental.
L'éco-conception des emballages, un emballage, il dure plus longtemps que le produit. Donc, si on arrive à l'éco-concevoir, à faire en sorte qu'il soit ou entièrement recyclable ou biodégradable, au final, on gagnera.
Allez,
Et la France est un grand pays d'emballage.
Vous allez revenir, on évoquera toutes ces questions très importantes avec vous une prochaine fois. Juste, c'est la fin de cette émission avec vous, Marion Mourgue. Quelle est la une du Figaro demain?
On revient sur l'affaire Hulot et les conséquences politiques pour Emmanuel Macron.
Avec un dossier très large, j'imagine.
Exactement.
On va se précipiter dessus. Je rappelle avec vous, François Siegel, la une de Oui Demain, cette belle revue trimestrielle. Nicolas Hulot, le monde dont je rêve en 2040. Vraiment, je vous invite à lire et cette interview et le reste du magazine. C'est formidable. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir. Merci Marion Mourgue, Serge Auru, merci François Siegel et merci Yaël Gauze. Et moi, je vous dis pour ma part, à demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés sur France Info.